Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews, le meilleur de l'info avec ce soir Paul Melun. Bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue à vous, écrivain, président de Souverain Demain. À vos côtés, Emmanuel Alioula. Bonsoir, vous
Alioula,
êtes
bonsoir.
Représentante officielle du protocole israélien 6C. Vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit exactement. Et puis Arié Bensemoun, vous êtes directeur général de l'ONG Elnet France, soyez le bienvenu. On va beaucoup parler évidemment de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe en Égypte, où les négociations viennent de reprendre concernant le pourparler, concernant la trêve éventuelle dans la bande de Gaza. Mais on va commencer cette émission avec la prise de parole de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui s'est exprimé en fin de journée pour justifier l'entrée de Tsahal dans Rafah et dénoncer la proposition de trêve faite initialement par le Hamas. On l'écoute.
L'entrée à Rafah sert deux objectifs principaux de la guerre, le retour de nos otages et l'élimination du Hamas. Nous avons déjà prouvé lors des précédentes libérations de personnes enlevées que la pression militaire sur le Hamas est une condition nécessaire au retour de nos otages. La proposition faite hier par le Hamas visait à torpiller l'entrée de nos forces à Rafah. Cela ne s'est pas produit. Comme le cabinet de guerre l'a décidé à l'unanimité, la proposition du Hamas est très loin des exigences nécessaires d'Israël. Israël ne peut accepter une proposition qui met en danger la sécurité de nos citoyens et l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'ai donné pour instruction aux négociateurs qui se sont rendus au Caire de continuer à se montrer fermes sur les conditions nécessaires à la libération de nos otages, ainsi que sur les conditions essentielles à la garantie de la sécurité d'Israël.
Arié Bensemoun, je me tourne d'abord vers vous. Les discussions viennent de reprendre au Caire, en Égypte. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une chance d'aboutir ou est-ce que c'est illusoire de le penser ?
C'est peu probable parce que le Hamas a compris qu'il détenait une carte avec laquelle il va continuer à mener sa guerre psychologique jusqu'au bout. C'est la carte évidemment des otages. Ce n'est pas pour rien que 240 otages ont été pris dès le 7 octobre. Il fallait se préparer à faire chanter Israël. Et avec cette conviction finalement que la communauté internationale allait participer à cette grande mascarade, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est quand même assez pitoyable de voir que nous sommes dans une situation où, il faut rappeler le 7 octobre, Israël est en droit de se défendre, mais invité à ne pas le faire. Et on a un Premier ministre israélien qui doit en permanence se justifier de toutes les opérations qu'il doit conduire pour assurer la sécurité de son pays, de son peuple, et puis pour obtenir que finalement, la chose qui aurait dû être exigée dès le début, que les otages soient libérés dans leur intégralité et sans condition. Je crois même qu'il y a des résolutions qui vont en ce sens, y compris une déclaration, une décision de la Cour internationale de justice qui réclame la libération immédiate et inconditionnelle des otages. On parle beaucoup d'un génocide qui n'existe pas, mais on oublie que la Cour internationale a statué sur cette question-là. Et il faut aussi exiger que le Hamas, qui est une organisation terroriste, rende les armes. C'est le seul moyen pour terminer plus rapidement cette guerre.
Est-ce que c'est parce que le Hamas ne veut pas d'une trêve, ne veut pas libérer les otages, qu'il a fait cette proposition qui est inacceptable pour Israël? Cette proposition de trêve inacceptable.
Le Hamas ne veut pas de trêve. Il veut la fin des combats pour pouvoir annoncer qu'il a gagné la guerre contre Israël. Et puis on ne sait pas ce que deviendront les otages par la suite. Ce qui est proposé et encouragé d'ailleurs par le Qatar, qui joue un rôle bien obscur dans cette affaire-là, ou en tout cas, peut-être pas si obscur que ça, parce que tout a l'air parfaitement clair, au contraire, c'est un marché de dupes qui en permanence est proposé par Israël, sous pression de la communauté internationale, et je trouve que c'est inique, et que cette guerre doit se terminer. Pour qu'elle se termine, il faut que le Hamas soit vaincu.
Emmanuel Alioula, le Hamas dit ce soir que ces négociations qui ont lieu en ce moment en Égypte sont la dernière chance pour Israël de revoir les otages. Ça signifie que si ces négociations échouent, ces otages, ils seront tués ?
Alors, je n'ai pas la réponse. Hein. Je pense que personne autour de ce plateau ne l'a. Ce qui est certain, c'est qu'on se pose déjà tous la question de savoir combien reste-t-il d'otages en vie.
On parle de 33 otages qui seraient libérés dans le cadre d'un accord.
D'accord. Et la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on les reverra ?
Est-ce qu'on les reverra vivants, ces otages ?
Mais tout le monde se pose cette question-là en permanence. C'est la pression qui est aujourd'hui sur les familles et sur le Premier ministre israélien.
Mais la déclaration quand même, Paul Melun, aujourd'hui, qui arrive du Hamas en disant « si les négociations du Caire échouent, les otages, vous ne les reverrez pas », c'est ce qui est dit en fait.
Oui, bien sûr. La difficulté de cette négociation ou cette tentative de négociation, c'est que par rapport aux fois où l'on négocie avec une armée conventionnelle, avec un régime même dictatorial mais organisé, c'est que là nous avons affaire à des gens qui ont commis l'innommable, à des terroristes, à des gens dont on ne sait pas vraiment ce qu'à la fin ils peuvent faire des otages. Donc c'est extrêmement périlleux. Pour autant, et c'est terrible parce qu'on est obligé de négocier, y compris avec des gens qui ont pu avoir commis des monstruosités, il faut poursuivre les négociations. Moi, je suis sur la position de la diplomatie française, sur la position du Premier ministre Gabriel Attal a parlé de ça il y a aujourd'hui même, je crois, et il avait raison. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour aller vers le cessez-le-feu. Il faut pouvoir assurer l'arrivée de l'aide humanitaire à Rafah. Et je pense que c'était un peu le message de Blinken et de Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahou. Et je pense que cette guerre, elle a vocation aussi à prendre fin à un moment ou à un autre.
Mais elle ne peut pas prendre fin tant que le Hamas n'est pas vaincu. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que de vaincre le Hamas, qui, s'il sortait même exsangue, crierait victoire et on partirait à nouveau pour une situation dans laquelle eh bien, les Palestiniens de Gaza, mais également ceux qui vivent en Judée-Samarie ou dans la Cisjordanie, seraient dans la situation dans laquelle se retrouvaient les Gazaouis. Il faut en finir avec l'administration terroriste des Palestiniens, il faut en finir avec cette autorité palestinienne qui n'a jamais dénoncé les massacres du 7 octobre, qui continue à financer les terroristes, qui enseignent, qui éduquent, qui endoctrinent à la haine. Écoutez, il faut qu'à un moment donné, cette plaisanterie entre guillemets de très très mauvais goût puisse s'arrêter et qu'on puisse ouvrir de nouvelles perspectives pour un Moyen-Orient qui sera débarrassé des terroristes. Tant que ce ne sera pas fait, il n'y a aucun espoir de paix dans cette région et tout le monde se gosse d'un cessez-le-feu qui ne pourrait conduire qu'au pire finalement, parce que qui conduirait simplement à préserver le Hamas. C'est absolument inacceptable.
Emmanuel Alioula, je veux qu'on dise quand même encore un mot de ces otages, parce qu'on espère tous évidemment qu'ils vont revenir en vie. Si jamais ils reviennent après 7 mois de captivité, et c'est là que votre association a, vous avez créé...
Alors, personnellement, je n'ai rien créé, mais il existe en fait un protocole national.
Voilà, c'est un protocole qui permet de...
Qui est celui de l'État d'Israël, en fait, et qui permet, qui est né au sein de l'armée et qui maintenant est appliqué par le ministère de la Santé à tous les civils et qui permet de prendre en charge les gens en état de choc, les premiers, en situation d'urgence. On n'est pas dans une thérapie, on est en situation d'urgence. Donc si la question est dans quel état vont-ils revenir, encore une fois, personne ne peut le dire. C'est la première fois qu'Israël est confronté depuis le 7 octobre à des traumatismes de cette envergure-là. C'est pourtant un pays extrêmement aguerri à l'adversité, extrêmement résilient, mais ce type d'événements est tout à fait unique et on ne sait pas comment la société israélienne se remettra de ça.
Le protocole d'accueil de ces otages, ça se passe comment concrètement ?
Le protocole d'accueil des otages en santé mentale, c'est l'application du protocole 6C. Donc concrètement, on a une prise en charge qui est à 180 degrés de ce qui peut nous sembler naturel les uns et les autres. C'est-à-dire que au lieu de prendre en charge des otages ou des survivants de façon compassionnelle, on va au contraire être très connecté à eux de façon cognitive. On va s'adresser à eux sans compassion, sans langage émotionnel, mais les faire basculer immédiatement dans un fonctionnement lié à la routine, à la vie, à la reprise du mouvement, à la reprise d'une vie normale, pour ne pas présupposer qu'ils sont de toutes les façons traumatisés. Alors là, on parlait de ça pour les otages qui ont été libérés il y a plusieurs mois. Oui. Maintenant, 6 mois se sont écoulés. Il est évident que là aussi, il va falloir se réinventer. Parce que la prise en charge même, par exemple, des viols qui a été faite avec le protocole 6C, il a aussi fallu se réinventer parce que ça a été fait de
évidemment, parce façon... qu'on n'imagine pas le calvaire qu'ils ont dû subir depuis
On est au-delà des viols traditionnel, entre guillemets.
Naturellement. Et je rappelle ce soir qu'il y a toujours 3 otages franco-israéliens qui sont détenus dans la bande de Gaza par les terroristes islamistes du Hamas. Ils se nomment Ofer, Orion, Oad et sont détenus depuis 214 jours. Nous pensons évidemment à eux, à leurs familles et nous demandons comme chaque jour leur libération immédiate et sans conditions. On va écouter à présent le Premier ministre Gabriel Attal qui s'exprimait cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Le Premier ministre qui se dit préoccupé par la situation dans la bande de Gaza et par l'offensive israélienne sur Rafah qui risque de s'intensifier, on l'a bien compris, dans les prochaines heures. Écoutez Gabriel Attal.
Oui, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Et oui, les civils doivent toujours être épargnés. Vous l'avez dit, hier soir, les forces armées israéliennes sont entrées dans Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, où se trouveraient jusqu'à présent plus d'un million de personnes. Le président de la République a dit très clairement sa préoccupation face à cette offensive. Il a eu l'occasion de le dire très directement au président israélien, au Premier ministre israélien, pardon, Benjamin Netanyahou, qu'il a appelé dimanche pour lui dire sans ambiguïté.
Arié Bensemoun, on comprend que la détermination d'Israël, elle est totale, quoi qu'en pense la communauté internationale, quoi que puisse dire Emmanuel Macron. L'offensive de Rafah, elle aura lieu. Est-ce que ce sera une offensive, d'après vous, qui sera d'une grande intensité, comme l'ont été les bombardements depuis 6 mois ?
Elle sera d'une intensité adaptée aux objectifs militaires que s'est fixé le gouvernement israélien.
C'est-à-dire la destruction, l'anéantissement du Hamas ?
Ça sera la destruction de tout ce qu'il est possible de détruire s'agissant du Hamas, des infrastructures militaires qui sont utilisées par le Hamas, comme on le sait, que ce soit des écoles, des hôpitaux.
Donc il y a destruction de Rafah en réalité.
Ce sera la destruction de tous les lieux qui sont utilisés par le Hamas comme établissement qui permet de continuer la guerre contre Israël, la guerre contre les civils israéliens, et qui permet malheureusement de continuer à maintenir sous une situation de siège aussi la population de Gaza.
Disons les choses clairement, comme le Hamas utilise les écoles, les hôpitaux, tout ce qui sert à la population civile.
Toute la bande de Gaza, ces 700 et quelques kilomètres de tunnels, ces infrastructures militaires qui sont cachées dans les écoles, dans les habitations.
Absolument, donc tout ça il faudra le détruire.
Mais tout ça il faut impérativement le détruire parce que c'est l'avenir aussi des Palestiniens qui en dépendent. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une guerre totalement asymétrique d'un genre unique dans l'histoire. Il faut que Israël termine cette guerre, il faut que le Hamas soit détruit, et il n'y a pas d'autre option pour les Israéliens, mais aussi pour la communauté internationale qui fait preuve d'une hypocrisie absolument insupportable. Et c'est ce fameux deux poids deux mesures, ce double standard que nous ne cessons de dénoncer, et qui est d'une certaine manière le signe de ce que l'État d'Israël et le peuple juif n'ont pas les mêmes droits que les autres peuples ou que les autres États sur cette terre.
Paul Melun, est-ce que vous avez le sentiment que les Israéliens, d'une part, et le gouvernement de Benjamin Netanyahou sont sensibles à la pression de la communauté internationale ou, compte tenu de l'horreur qu'ils ont vécue le 7 octobre, ils n'en ont que faire et vont poursuivre leurs objectifs ?
Ils n'en ont que faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que pour le moment, les avis de la communauté internationale n'ont pas eu une grande incidence sur les attitudes militaires de Benjamin Netanyahou. Le vrai sujet, enfin il y en a plusieurs. D'abord, il y a effectivement, vous parliez des otages, c'est le sujet fondamental. C'est comment fait-on pour sauver les otages au plus vite. Et ça, c'est tout le travail de la diplomatie. Ensuite, sur la question du Hamas, éradiquer le Hamas, cette expression, on l'a employée jadis pour Daesh, on l'a employée pour Boko Haram, on n'y arrive jamais. Parce que le problème, c'est que c'est une idéologie, et que cette idéologie, elle est dans les têtes. Elle gangrène les têtes, elle gangrène le Moyen-Orient, c'est quelque chose de et qui pousse à commettre des monstruosités indicibles comme ce qui s'est produit avec les pogroms du 7 octobre, mais que on pourra, si vous voulez, raser la bande de Gaza, il y aura toujours un certain nombre de gens qui appartiendront au Hamas, je ne sais où dans le monde, et qui commettront leur forfait. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et ensuite, sur le sain rappel, à mon avis, du Premier ministre Gabriel Attal, il a raison. Il faut penser aux vies des civils, il faut faire attention, il faut être soucieux de cela, et je pense que ça, c'est aussi le travail de la communauté internationale de le rappeler.
Je pense que les Israéliens sont très sensibles à la pression qui est exercée sur eux par la communauté internationale. Si ce n'avait pas été le cas, cette guerre n'aurait pas déjà duré 7 mois. Elle aurait duré deux semaines, peut-être même beaucoup moins. Les Israéliens sont très conservateurs de la vie des civils. Ils sont d'ailleurs, les Israéliens, c'est le seul peuple au monde qui respecte les lois internationales et le droit de la guerre. Sinon, il n'y aurait pas Le nombre de morts que d'ailleurs on ne connaît pas, il y en aurait 10 fois plus.
Et tout le monde est évidemment sensible à ce qui se passe dans la bande de Gaza, naturellement. Je veux qu'on voit ces images à présent. Il y a quelques minutes à la Sorbonne à Paris, où une intervention policière était en cours pour évacuer donc des étudiants qui bloquaient l'entrée de la Sorbonne, des étudiants qui manifestaient en soutien au peuple gazaoui, évacuation donc qui s'est terminée manifestement il y a quelques minutes, sans heurts, mais des étudiants qui ont donc été délogés. Mobilisation pro-palestinienne ou anti-israélienne, pour dire les choses plus clairement, qui se poursuit à Sciences Po. Ce matin, l'entrée du bâtiment historique a été à nouveau bloquée. Et qui dit blocage et non-respect des règles dit bien sûr la France insoumise. Et c'est le député Louis Boyard qui est allé soutenir les étudiants d'extrême gauche. Une présence qui a donné lieu à un vif, très vif échange avec un autre député européen, celui-là François-Xavier Bellamy. Séquence.
Il y a un génocide à Gaza.
Aujourd'hui, à Gaza, il y a un drame humain absolu qui est causé d'abord et avant tout par le Hamas. Et ceux qui ne sont pas capables de dire ça ne sont pas...
C'est pas le Hamas qui balance des bombes. Et en fait, on n'en est même pas là. La question, ça fait 75 ans que le conflit...
Qui retient des otages aujourd'hui?
Ces étudiants, ils demandent la paix. Ces étudiants, ils demandent le cessez-le-feu. Et vous venez les insulter. Vous venez raconter n'importe quoi.
Avec le Hamas, il n'y aura pas de paix dans la violence.
Vous venez parler de vous parce que votre campagne, elle est en déroute. Ces étudiants sont bien plus citoyens et bien plus honorables que vous.
C'est vrai que vous avez choisi de faire campagne sur l'antisémitisme et sur la complicité avec l'islamisme, donc c'est sûr que c'est une déroute morale autrement plus inquiétante.
Si jamais vous avez un peu d'honneur et un peu de fierté pour votre pays, vous ne pouvez pas laisser la France se rendre complice d'un génocide.
Parce que des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur.
Et vous qualifiez le 7 octobre comme une attaque terroriste ou pas?
Nous parlons le langage du droit international. Ce sont des crimes de guerre qui sont même dans le droit.
Magnifique,
non mais attendez, je vais vous dire.
Monsieur Boyard a tout dit. Des députés qui sont incapables de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste.
Je vais vous dire les choses très clairement,
pour parler
pour
un type, de droit international.
Pour un monsieur,
l'histoire retiendra ce que vous avez fait.
Est-ce que vous êtes capable
un acte de collaboration avec le pire qui monte aujourd'hui?
Laissez-moi juste vous dire.
Paul Melun, ce qui m'interpelle à chaque fois que j'entends Louis Boyard, Thomas Porte, Ercilia Soudé, c'est la vacuité de leurs propos. Bien sûr, on peut défendre la Palestine. Tout le monde est sensible à ce que vit le peuple gazaoui en ce moment. Mais les arguments qu'ils utilisent d'abord sont fallacieux. Et. Pardon, mais c'est la pensée zéro, c'est le degré zéro de la pensée politique.
Vous avez tout à fait raison. Et effectivement, quand on voit ces étudiants, on se demande si, comme Madame Panot, ils savent placer le Jourdain sur une carte et s'ils savent ne serait-ce que placer la Palestine sur une carte. C'est-à-dire qu'ils sont dans une stratégie du pire. Les insoumis tentent de surfer, si vous voulez, sur cette jeunesse en proie à l'islamo-gauchisme, etc., dont la France insoumise est une sorte de version un peu paroxystique. Moi, je pense que ça va les mener dans le mur et je pense que François-Xavier Bellamy a très bien fait d'y aller parce qu'il a dialogué, ça s'est passé de façon, tout de même s'il a été hué, etc., ça s'est passé de façon pacifiste, il a pu dire ce qu'il avait à dire, il a pu montrer la vacuité du propos de M. Boyard dont vous parliez à l'instant et le mettre en déroute sur un certain nombre de points, il a été très clair, il l'a mis en défaut sur cette histoire de refus de parler d'organisation terroriste concernant le Hamas et il a permis que certains masques tombent. Donc si vous voulez, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, des gens comme M. Boyard sont des agitateurs dans les universités et leur rôle aujourd'hui, le rôle qu'ils sont auto-octroyés, c'est d'aller chercher une jeunesse en quête d'un idéal par-delà les frontières et de l'utiliser avec des slogans qui ne sont pas pro-palestiniens, mais qui, certaines fois, flirtent avec l'antisémitisme. Quand vous dites que vous voulez éliminer Israël de la carte, quand vous dites « from the river to the sea », de la rivière jusqu'à la mer, eh bien, vous prenez ni plus ni moins que la disparition de l'État Israël. Et on est bien loin des sourires et des postures de façade sur la solution à deux États. Donc il faut faire très attention et il faut aller confronter ces gens-là, comme l'a fait François-Xavier Bellamy avec je trouve un certain courage.
Emmanuel Alioula, est-ce que les membres de la France insoumise comme Louis Boyard ou d'autres sont des agitateurs comme le dit Paul Melun ou est-ce qu'ils sont davantage un danger pour notre pays compte tenu des propos qu'ils tiennent et précisément de l'agitation qu'ils suscitent?
Je crois qu'effectivement, je vais vous rejoindre, ils sont les deux. Ils sont dangereux pour la démocratie elle-même, bien sûr, puisque ce qu'ils véhiculent, c'est l'islamisme. Donc, bien sûr qu'ils sont dangereux pour la démocratie.
Alors, celui qui a le mieux parlé de la France insoumise aujourd'hui, c'est sans doute Gabriel Attal, à nouveau à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement. On l'écoute.
Ces indignations sélectives, elles doivent cesser. Elles doivent cesser. De la part de ceux qui font toujours entendre une voix contre Israël, mais qui sont sans voix face au Hamas et à ces exactions qui sont commises. les indignations sélectives de ceux qui cherchent toujours à souffler sur les braises, organiser des blocages, organiser des manifestations devant les universités, jamais pour parler de nos otages, jamais pour parler d'Israël.
Bon, Harry Ben Semoun, il a vu assez juste le Premier ministre.
C'est ce qu'il a dit hier soir aussi au dîner du CRIF, l'indignation sélective de l'extrême gauche, des pro-palestiniens, des islamistes, ne trompe plus personne. Ces gens-là se sont disqualifiés, déjà en n'ayant pas dénoncé les massacres du 7 octobre.
Ils continuent leurs provocations, ils continuent leurs appels à la haine, malgré les critiques
c'est un fond de commerce.
Qu'on ressasse depuis des mois et des mois.
Mais c'est un fonds de commerce. Ils n'ont que faire de la réalité, de la vérité, de l'objectivité. Ils ne cessent d'annoncer en permanence la question de le génocide, mais le génocide n'existe pas. Déjà, ne serait-ce que pour cela.
L'ONU, y compris, qui n'est pourtant pas très pro-israélien,
ni l'ONU, ni la Cour internationale de justice,
qu'il n'y avait, pas de génocide.
Ni personne qui connaît le sens des mots, et il y en a beaucoup dans ce monde, ne parle de génocide. Mais quand un législateur se permet de mentir, de manipuler l'opinion, il devrait y avoir des sanctions pour ça. La liberté de parole, la liberté de débat, ce n'est pas de laisser 5 minutes pour les nazis, 5 minutes pour les juifs. Il faut que la vérité soit respectée. Et quand il y a un débat, ayons un débat sérieux, constructif, et avec des gens qui ne manipulent pas l'opinion, qui ne disent pas de mensonges, qui ne profèrent pas de contre-vérités, qui sont objectives. C'est grave, parce que parler de génocide, c'est inciter à la haine des juifs et d'Israël. Et c'est clairement avoir l'agenda d'effacer Israël de la carte, vous l'avez dit et vous avez parfaitement raison, mais effacer Israël de la carte, ça veut dire également exterminer les Juifs. Et derrière tout cela, on voit bien que les Juifs comme Israël sont utilisés comme un bouc émissaire, il y a un agenda politique très précis, il s'agit de dynamiter de l'intérieur toutes les démocraties, tous les systèmes politiques dans lesquels nous vivons et qui garantissent la laïcité, la liberté de tous et l'égalité entre tous les citoyens. C'est un danger au-delà des Juifs, au-delà d'Israël, pour la République, pour la France, pour notre pays. Ces populistes sont en train de foutre le feu au pays et si on ne les arrête pas, ils finiront par y parvenir.
Alors avant de retrouver Simon Guillain pour le rappel de l'essentiel de l'actualité, cette information de dernière minute, puisqu'on apprend que toutes les parties, dont Israël, sont d'accord pour retourner à la table des négociations au Caire, des négociations qui avaient commencé mais sans Israël. Israël qui va donc rejoindre la table des négociations dans les toutes prochaines heures. Information extrêmement importante. 21h29, l'essentiel de l'actualité avec Simon Guillain. Bonsoir Simon.
Bonsoir cher Johan et bonsoir à tous. Vive émotion à Châteauroux ce mardi où se sont déroulées les obsèques du jeune Matisse. La ville lui a rendu un dernier hommage. Près de 2000 personnes se sont réunies au stade Gaston Petit. À l'initiative de sa famille ainsi que de ses proches, ce jeune homme de 15 ans a été tué le 27 avril dernier. La flamme olympique est attendue demain à Marseille. Une arrivée à bord du Bélème sous très haute sécurité avec un dispositif inédit. 6000 policiers et gendarmes vont être déployés sur place. Et bien sûr, toutes les équipes de CNews seront mobilisées à Marseille pour l'événement dès la matinale à partir de 6h. Charles.
Merci beaucoup Simon Guillain. On va parler de Sciences Po à nouveau. Sciences Po, puisqu'il arrive que certains professeurs prennent parti en faveur de la mobilisation des étudiants. Oui, exemple avec une enseignante qui a décidé de décaler le compte-rendu d'un devoir pour permettre aux élèves de poursuivre leur manifestation.
Dans un mail envoyé vendredi dernier à des élèves de master, une enseignante accorde un délai supplémentaire pour le rendu d'un devoir. Pour justifier sa décision, elle évoque le mouvement pro-palestinien, mené pourtant par une poignée d'étudiants.
Considérant les mobilisations en solidarité avec la Palestine légitime et les défis de maintenir un environnement d'apprentissage apaisé pour la fin du semestre, nous avons décidé de prolonger la date de rendu de 2 jours.
Une mobilisation qu'elle qualifie de légitime, un terme employé qui pose question. La charte de déontologie de Sciences Po invite les professeurs à une certaine mesure.
Les titulaires de fonctions au sein de l'Institut d'études politiques de Paris bénéficient de la liberté d'opinion. Ils veillent toutefois à ce que leurs opinions n'altèrent pas l'exercice de leurs fonctions.
La professeure a fait un choix différent, c'est-à-dire de donner de but en blanc son avis, alors même que certains étudiants ne sont pas forcément d'abord d'accord et puis ensuite subissent en réalité ce qu'elle considère être légitime. Ce n'est que le symbole de ce qui se passe de manière générale dans certaines universités et aussi à Sciences Po et que l'UNI dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire la présence de l'extrême gauche jusque les sphères hautes de certaines universités.
Eh oui. Et regardez à présent ces images où des professeurs ont carrément décidé de rejoindre les élèves pour bloquer l'entrée de l'établissement avec des pancartes sur lesquelles étaient inscrits notamment « Les étudiants nous donnent de l'espoir ». Voilà ce qu'on pouvait voir aujourd'hui à Sciences Po. C'est vrai, Paul Melun, que si on était à Sciences Po dans un établissement qui fonctionne normalement, ces étudiants, eh bien, ils ne pourraient pas rester en place.
Ah bah oui, enfin si vous voulez, non. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que là, au moins, la cristallisation autour du conflit israélo-palestinien des Sciences Po et même des universités de sciences humaines plus généralement nous permet de voir à quel point est-ce que l'idéologie islamo-gauchiste, woke, a du poids au sein de nos universités en sciences humaines. Et effectivement, là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une continuité, il y a un continuum entre une bonne partie de l'équipe pédagogique, entre une bonne partie des professeurs, pas tous naturellement, heureusement, mais une bonne partie, et les étudiants. Et ça, c'est malheureusement pas d'aujourd'hui. Sciences Po évolue comme une sorte d'écosystème, de microcosme, déconnecté du reste du pays, et avec effectivement un soutien, j'allais dire à peine voilé, non, là, il s'exprime au grand jour, de la part d'un certain nombre d'enseignants vis-à-vis de ces étudiants. Oui,
Emmanuel Alioulas, c'est vrai que là, ce qu'on voit sur ces images, en tout cas à l'entrée de Sciences Po, c'est que c'est le wokisme, l'islamo-gauchisme qui fait la loi pour l'instant dans cet établissement.
Je trouve qu'il n'y a rien de très surprenant. La seule vertu du 7 octobre, c'est d'avoir fait tomber les masques. C'est-à-dire que tout d'un coup, se sont révélés l'état de notre société occidentale, française. Et la parole s'est libérée avec une facilité assez déconcertante, notamment celle contre les communautés juives. Donc je trouve très vertueux qu'enfin les masques soient tombés. Je pense qu'on ne fait que récolter ce qui est semé depuis très longtemps. Il y a un biais cognitif, vous savez, c'est surtout ça que je voudrais mettre en avant. Il y a un biais cognitif qu'on appelle l'underdog. L'underdog, c'est un concept sociopolitique qui fait que on est spontanément, en tant qu'être humain, favorable au perdant. Et on a une sympathie ou de la pitié pour le perdant. Et globalement, tout le narratif palestinien depuis Arafat a très bien fonctionné, puisqu'on a fait en sorte qu'on les voit comme étant les plus faibles. Et aux plus faibles, on a tendance à attribuer des qualités positives.
C'est le wokisme.
C'est le wokisme.
C'est la définition.
Et de fait, Israël est le grand méchant, effectivement.
Je veux qu'on écoute à présent ce témoignage. Une accusation extrêmement grave, une accusation portée par la présidente de SOS Éducation qui estime possible que des élèves aient été refusés à Sciences Po en raison de leur nom à consonance juive, des étudiants brillants dont le dossier aurait été refusé simplement parce que juif. Donc c'est ce qu'elle a expliqué, c'est ce qu'elle pense en tout cas. Elle l'a expliqué à Sonia Mabrouk aujourd'hui dans Midi News. Écoutez.
Il faut savoir que les élèves de terminale recevaient leurs réponses s'ils étaient admis ou pas à Sciences Po. Et moi, j'aimerais bien, vous voyez, j'invite Gabriel Attal à se pencher sur ce sujet-là, et je pense qu'il serait utile de faire une enquête indépendante pour savoir à quel motif et sur quels critères objectifs les terminales de cette année ont été admis à Sciences Po. Vraiment, j'invite Gabriel Attal à le faire. Parce qu'il s'avère que nous, à SOS Éducation, on a reçu des dossiers qui pose quand même question, voyez, soit sur des noms d'enfants qui sont manifestement de confession juive, si vous voulez, qui avaient des notes excellentes. Quand je dis excellentes, c'est-à-dire que c'était des premiers de classe.
Attendez, c'est d'une gravité.
Je demande une enquête.
Ariel Ben-Simon, moi, ça semble improbable. Ça me semble impossible.
Rien n'est plus improbable, rien n'est impossible. Au nom du nivellement par le bas, on a abandonné le concours d'entrée à Sciences Po et on fait finalement à la tête du client en fonction des obédiences politiques de ceux qui sont amenés à choisir et la plupart du temps des gens d'extrême gauche. Rappelez que la réputation de Sciences Po est, à mon avis, durablement effondrée.
Pardon, mais ça voudrait dire qu'il y a de l'antisémitisme, y compris au sommet de Sciences Po.
Il y a une idéologie favorable aux islamistes et aux islamo-gauchistes pilotée par toute l'idéologie
à l'antisémitisme.
Et utilisez le mot qui convient le mieux, c'est contre les juifs, c'est contre Israël, et chaque juif étant considéré comme un sioniste en puissance, c'est contre Israël. Vous avez remarqué qu'à Sciences Po, on demandait à des juifs de crier « Vive la Palestine !» pour pouvoir rentrer par exemple dans un amphithéâtre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a pas après les juifs.
à proprement parler. On en a après les juifs qui seraient sionistes, qui donc seraient les défenseurs de l'État d'Israël et d'une certaine manière considérés comme étant les suppôts du mal absolu que serait l'État d'Israël. Mmh. Mais si l'État d'Israël c'est le suppôt du mal absolu, alors ça veut dire que tous les États-nations, que toutes les démocraties, que tous les islam dans lesquels nous vivons sont logés à la même enseigne. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux, bien sûr pour les juifs parce que première ligne, bouc émissaire comme toujours, mais si derrière les sociétés ne sont pas capables de comprendre que c'est leur avenir qui est en jeu et on laisse une petite minorité d'ignorants faire la loi alors que aujourd'hui toutes les enquêtes qui ont été publiées montrent bien, et encore la dernière par la Fondapol, que une immense majorité des Français rejette cette réalité-là, rejette cet islamo-gauchisme, rejette l'islamisme. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, disent à 76%, ils sont inquiets de voir la montée de la haine des Juifs en France. C'est-à-dire qu'ils n'y participent pas.
On va parler de la montée de l'islamisme dans la deuxième partie de l'émission.
J'étais d'accord avec ce que vous disiez. Effectivement, je pense qu'il y a un décalage énorme entre ce qui peut être professé par un centre d'élévation SPO et le pays profond. Sur ce que disait Sophie Audugé, je me refuse à y croire. Je peux pas imaginer qu'il y ait dans les jurys de concours, enfin, puisque malheureusement maintenant c'est plus un concours, mais que dans les jurys d'entrée à Sciences Po, il y ait des gens qui disent tel ou tel a un patronyme de la consonance juive, on le refuse. Je peux pas y croire. Donc s'il y a une enquête indépendante, on verra, mais pour le moment, je n'y crois pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis qu'il y a plus concours, on peut faire un peu n'importe comment. Moi, je suis rentré à Sciences Po Bordeaux, pour le coup, à l'époque, c'était sur un concours aussi. Maintenant, la plupart des instituts politiques n'ont plus de concours d'entrée, ce qui fait qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, alors que le creuset de la méritocratie, c'est le concours. Parce que face à une feuille blanche, on est tous égaux, il n'y a pas de don, il y a un code barre à scanner, et que vous soyez fils ou fille de ministre ou fils ou fille de cheminot, votre copie vaut la même chose devant l'éternel et devant le correcteur. Donc ceux qui, au nom de la gauche, ont voulu supprimer ce concours, ont commis l'irréparable et ont promis évidemment le contraire de la méritocratie que promettait le concours.
Allez, vous restez avec nous, on marque une très courte pause, on se retrouve dans la deuxième partie du meilleur de l'info pour parler de ces chiffres, l'antisémitisme précisément, et les actes antisémites en augmentation de 300% au premier trimestre de cette année. Une explication selon David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Selon lui, c'est l'islamisme qui est en partie responsable de tout cela. On en parle dans un instant. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, le meilleur de l'info, deuxième partie. Et ce chiffre d'abord effroyable pour commencer. Il y a eu 365 actes antisémites au premier trimestre de cette année. Cela représente une augmentation de 300% sur un an. Qui est responsable de la montée de cet antisémitisme en France? Il y a les discours politiques et notamment ceux de la France insoumise qui ont sans doute un impact important sur le climat actuel. Et il y a aussi l'immigration massive. C'est en tout cas l'avis de David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France. On l'écoute.
Une des sources aussi de l'antisémitisme aujourd'hui qui prospère, c'est malheureusement une immigration musulmane non contrôlée qui fait des écosystèmes et qui fait qu'il y a une espèce de doxa qui met la pression sur la majorité de nos compatriotes musulmans qui ne sont pas antisémites, etc. Mais il y a un conformisme de l'antisémitisme qui est en train de se développer dans des universités, dans des écoles.
Harry Ben Semoun, vous êtes d'accord avec ce constat ?
Je partage à 100% les propos de David Lisnard, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai un grand débat avec mes amis des institutions juives pour dire qu'il faut arrêter de parler d'actes antisémites. L'antisémitisme, c'est une forme particulière de la haine des juifs qui a prospéré malheureusement au 19e et au début du 20e siècle. Pour autant, aujourd'hui, il y a d'autres formes de haine des juifs qui s'expriment, mais vous savez, quand on parle d'antisémitisme, on envoie à l'opinion publique cette idée que, en fait, finalement, c'est une histoire qui ne concerne que les juifs. Or, ça n'est pas la réalité, puisque ceux qui sont responsables aujourd'hui de ces agressions contre les juifs sont principalement les islamistes, les extrémistes de gauche, les wokistes, et qui sont rassemblés dans une espèce d'alliage ou d'alliance improbable que Pierre-André Taguieff a qualifié de palestinisme. Le palestinisme, c'est le cheval de Troie de l'islamisme et du wokisme dans le monde aujourd'hui. Donc il ne faut pas se tromper
de
combat.
Alors comment est-ce que vous appelez ça si ça n'est pas de l'antisémitisme?
Mais vous savez quoi? Je vais le qualifier de la manière la plus simple qui soit. La haine des juifs. Chacun est capable de comprendre ce que cela veut dire. Antisémitisme, c'est un concept de la science politique qui renvoie au 19e siècle et à ce qu'a été l'antisémitisme avant, pendant et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, cet antisémitisme-là, il n'a pas disparu. Il est résiduel en France. Mais en disant antisémitisme, on s'empêche de désigner les coupables. Et quand on ne désigne pas les coupables, on ne peut pas les combattre. Et il y a là
une grande bien-pensance de l'opinion publique, en tout cas des responsables politiques qui ont peur finalement de nommer le mal, mais mal nommer les choses, comme disait Camus, vous le savez, c'est rajouter au malheur du monde.
Emmanuel Alioula, c'est ça, c'est l'extrême gauche, c'est l'islamisme aujourd'hui qui représente la principale menace pour nos compatriotes.
L'islamisme, l'extrême gauche à côté représente peu de choses, mais l'islamisme certainement. Et l'islamisme se sert de LFI et consorts, c'est certain. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de... Ça ne concerne pas que les Juifs, en réalité. Et je trouve qu'on a tort de limiter ces sondages et ces problématiques-là aux Juifs. Il y a tout un pan de la population qui a envie d'autre chose que nos valeurs démocratiques. Ouais. C'est tout. Et il ne s'agit pas d'être juif, il s'agit juste de savoir si on veut continuer à vivre dans un pays démocratique et laïque ou pas.
Mais je pense que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que le nouvel antisémitisme, le néo-antisémitisme, celui du XXIe siècle, est probablement dans des proportions écrasantes celui de l'islamisme. Bien sûr, il y a de façon résiduelle des tenants du vieil antisémitisme, celui de Rivarol et consorts, mais ça ne représente rien, c'est peanuts. Le vrai antisémitisme,
ça, c'est
l'islam politique, c'est l'islamisme, c'est pas l'extrême droite. La malice du système, c'est de nous avoir fait croire depuis des décennies que la menace, c'était une nouvelle affaire Dreyfus, que la menace c'était l'extrême droite contemporaine, que c'était les amis de Jean-Marie Le Pen, etc. Alors même que progressivement, irrigué dans le pays, déjà depuis longtemps, ce nouvel antisémitisme qui lui peut tuer, qui est un antisémitisme de la violence, de l'attaque, du meurtre, et qui touche également, et là j'étais d'accord avec ce que vous disiez, au-delà même de la communauté juive qui est particulièrement touchée, touche aussi ce qu'on va appeler le racisme anti-blanc, qui est un grand impensé et qui est un des motifs d'agression d'un certain nombre de gens qui, dans la rue, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont blonds, parce que je ne sais quoi, ils vont aller se faire dépouiller, agresser, massacrer. Oui, c'est ça aussi.
Lola,
c'est ce qui s'est
Matisse,
passé avec Thomas,
etc.
Paul, c'est Matisse.
Ils n'ont rien à voir avec la communauté
absolument.
Juive. Être blanc devient un problème.
Bien sûr.
Je le dis d'autant plus à l'aise que moi, j'ai dû retirer mon fils qui était dans un établissement catholique parce que juif était un problème. Et ensuite,
bien sûr,
l'étape d'après, c'est être blanc qui est un problème.
Mais parce que dans l'esprit de ces gens-là, la figure du juif, elle
simplement
est la version en haut de la pyramide des blancs. C'est-à-dire pour eux, c'est la pointe avancée de l'Occident, Israël. Donc comme ils détestent l'Occident et tout ce que représente l'Occident, c'est notre ami Gilles William qui dit ça mieux que moi, le juif est une sorte de blanc au carré pour ces gens-là et qu'ils veulent en découdre. Et donc nous sommes tous visés à des degrés divers, catholiques, blancs, athées, homosexuels, femmes, peut-être un jour francs-maçons, libre-penseurs, républicains, laïcs, de multiples nuances, toutes ces communautés que je suis en train de citer là, enfin pas ces communautés, ces profils-là, sont des obstacles sur la route de l'islamisation de l'Europe. Et donc, autant d'étapes qui doivent être dans l'esprit des djihadistes, anéanties. Donc, il s'agit bien là vraiment d'une guerre civilisationnelle. Et si on ne comprend pas ça, on passe à côté de l'éléphant au milieu du salon qu'est l'immigration. Donc, David Lisnard a eu un propos salvateur, bien sûr.
Ari Ben-Semoun, je vous donne la parole dans un instant. Avant cela, je veux qu'on voit ce sondage et cette question que, sincèrement, je ne pensais pas qu'on poserait un jour en France. Question suivante. Est-ce qu'Israël se comporte avec les Palestiniens comme les nazis se comportaient avec les Juifs? Eh bien, figurez-vous que 32% des Français ont répondu oui et 67% des Français de confession musulmane disent oui, Israël se comporte avec les Palestiniens comme les nazis se comportaient avec les Juifs, Arié Ben-Semoun.
Mais voilà, tout est dit. Et d'ailleurs, les 67% de musulmans qui pensent que les Israéliens se comportent comme des nazis, c'est cette espèce de retournement d'inversion des valeurs, explique le 32% de la population en général. Mais quand vous rentrez très finement dans les détails, vous vous rendez compte que l'immense majorité des Français, donc au moins 68%, hein, si je sais compter, au moins 68% pensent que ça n'est pas vrai. Donc qui sont ces 32%? Eh bien on le sait, à 67% des musulmans, malheureusement, ça veut dire que cette population musulmane est très perméable aux théories.
Une partie de la population musulmane.
67%.
Oui.
67%, c'est plus que une grande majorité. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais ils sont perméables à cette idéologie islamiste qu'on laisse prospérer dans ce pays. Et nous sommes en train de mettre l'ensemble des musulmans français à risque parce qu'on les laisse entre les mains de gens qui sont terribles. Et quand je vois que le ministre de l'Intérieur veut mener une grande campagne contre l'idéologie des frères musulmans, dont le Qatar est la principale incarnation et le principal pays qui finance, eh bien je me dis que ce même pays qui est reçu en grande pompe en France par le président de la République, qui déclare que nous avons des valeurs communes avec le Qatar, je ne vois pas lesquelles, mais on est en train de créer une situation dans laquelle ce n'est pas la question des Juifs qui va se poser, ni même celle de l'effacement d'Israël, mais c'est celui de l'effacement de la République. Notre société est en train de s'effondrer. On le voit sous nos yeux. Les seuls qui en tireront un certain profit, ce sont les populistes, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, les uns nourrissant les autres. Même on a sûr. Intérêt à s'y prendre maintenant de manière très sérieuse et à enrayer ce phénomène-là.
J'étais d'accord avec ce que vous disiez, mais sur la lecture politique et sur les conséquences que ça pourrait avoir pour ceux que l'on appelle, pour moi un peu abusivement, les populistes, je suis même pas sûr que ce soit eux qui puissent récupérer, disons, les bénéfices politiques des désordres de l'Europe. Les insoumis, par exemple, moi je pense qu'à terme, ils vont être remplacés par des listes communautaristes, comme on a commencé à le voir dans certaines villes anglaises, à la faveur des élections communales. Et je pense que peut-être les peuples européens qui sont soucieux de l'islamisation de l'Europe et qui en ont peur, vont effectivement voter pour des partis plutôt nationalistes, voire pour des partis comme par exemple les Danois, qui sont des sociodémocrates, mais qui ont pris à bras-le-corps les problèmes de l'immigration. Donc je pense que c'est surtout une question de, comment dirais-je, d'axiome idéologique en Europe qui va maintenant présider à nos destinées dans les années à venir, et que les populations européennes, dans leur immense majorité, les fameux 68% que nous avons là, et puis ça recoupe à peu près sur la plupart des enquêtes d'opinion, 70% des Français qui sont hostiles à l'immigration massive, qui voient en l'islam politique une menace, etc. Ces Français-là, eh bien, ils votent et peut-être ne voteront-ils pas encore très longtemps pour Emmanuel Macron, qui est une sorte de synthèse, qui est très prudent et qui, de fait, continue à laisser prospérer par l'immigration massive un certain nombre des troubles que nous connaissons aujourd'hui.
Mais je suis d'accord avec lui.
Ouais. C'est formidable. Pour le mot de la fin, voilà. On vous aura mis d'accord pour la fin de cette émission. Merci à vous trois de m'avoir accompagné, en tout cas. C'est la fin du meilleur de l'info. Je remercie Valérie Acquenin, Florian Doré et Noémie Hardy qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, à 22h, vous avez rendez-vous avec Sandra Tchombo pour l'essentiel de l'actualité. Et puis à 22h30, ne loupez pas Soir Info avec l'ami Julien Pasquier. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, donc, 21h.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.